Vous écoutez On lit pour vous.
Où les punaises font-elles leur lit à Montréal? Un texte de Sarah Boumeda, paru le 17 mars 2026 dans Le Devoir. Dans un rapport rendu public le vendredi 13 mars 2026, le comité logement de la Petite Patrie somme la Ville de Montréal de mieux faire respecter les règlements de lutte contre les infestations, puisque la population de punaises de lit continue de proliférer dans les logements de la métropole. Quels quartiers sont les plus touchés? Quelle est la situation générale? Regard en données. Entre 2014 et 2024, la Ville de Montréal a recensé 41 750 interventions contre les punaises de lit sur son territoire. Il est cependant difficile de mesurer l'ampleur réelle du problème, puisque ce ne sont pas tous les exterminateurs qui déclarent leurs interventions. À partir des données ouvertes de la ville, on obtient tout de même un portrait, certes limité, de la situation, sur la période qui s'étend de juillet 2011 à décembre 2023. Le quartier Sainte-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, se distingue avec un nombre record de déclarations, soit 3018. Les secteurs Maisonneuve, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, et Crémazie, Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, se classent aussi parmi les quartiers les plus touchés, avec respectivement 1865 et 1790 déclarations. À noter que, selon les données disponibles, une déclaration peut comporter plus d'une extermination menée à un même endroit, et que chaque extermination peut viser plus d'un logement à la fois. Entre 2011 et 2023, au moins 90 000 logements ont été traités contre les punaises de lit à Montréal, selon la ville. Les données des logements traités suivent celles des déclarations. Les secteurs Sainte-Marie, Maisonneuve et Crémazie enregistre le plus grand nombre d'interventions. Les données municipales indiquent une baisse dans le nombre de déclarations d'infestation aux punaises de lit entre 2013 et 2020. Une période d'accalmie a pu être constatée pendant la pandémie de COVID-19 par le comité logement de la Petite Patrie. Le nombre d'infestations semble toutefois être reparti à la hausse depuis, selon l'organisme communautaire. En 2018, la Ville de Montréal avait adopté un plan d'action de lutte contre l'insalubrité des logements pour renforcer ses mesures de contrôle en augmentant notamment le nombre d'inspections. Mais le comité logement juge ces actions insuffisante. C'était « Où les punaises font-elles leur lit à Montréal? » Un texte de Sarah Boumeda, paru le 17 mars 2026 dans Le Devoir.
Congés parentaux. Un dossier d'Annabelle Caillou et Clémence Pavic, paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir. Le congé parental est de plus en plus masculin, mais reste largement féminin. Les pères québécois sont plus nombreux que jamais à prolonger leur absence au travail pour s'occuper de leur nouveau-né depuis l'instauration, en 2021, d'un incitatif au partage des prestations parentales. Il reste toutefois une minorité à le faire, le congé parental étant encore souvent perçu comme une extension du congé maternel. Sans ces 4 semaines supplémentaires, je n'aurais pas pris autant de congés. Financièrement, ça aurait été difficile, ça aurait fait trop de jours non payés pour ma compagne, raconte Diego Alejandro Ellanos, devenu père l'été dernier. Après ses 5 semaines de congé de paternité auprès de sa fille, il a vite constaté que ce serait insuffisant. Il a finalement pris 8 semaines de congé parental, encouragé par l'incitatif prévu dans la réforme du régime québécois d'assurance parentale, RQAP. Depuis 2021, si les deux parents prennent chacun au moins 8 semaines de prestations parentales sur les 32 prévues dans le régime de base, le couple reçoit 4 semaines additionnelles à utiliser librement. Le régime de congé parental québécois de base. Congé de maternité, 18 semaines. Congé de paternité, 5 semaines. Congé parental, 32 semaines partageables. Revenus remboursés. Les parents touchent 70 % de leurs revenus. Le revenu maximum admissible est de 103 000 $ en 2026 lors des semaines de congé qui leur sont exclusivement réservées. Pour les prestations parentales partageables, les 7 premières semaines sont remboursées à 70 % du revenu, les 25 suivantes à 55 % du revenu. À noter que certains employeurs compensent une partie du salaire, mais ce n'est pas le cas de tous. Francis Villard et sa conjointe ont aussi voulu profiter de ce bonus à la naissance de leur deuxième fille en 2024. Sans les 4 semaines additionnelles, je ne pense pas qu'on l'aurait fait. Enlever 8 semaines à ma conjointe, ça aurait été trop, dit-il, soucieux de lui laisser le temps de récupérer. Avec du recul, il se réjouit de leur décision. C'est le fun d'être plus présent dans les débuts de vie de son enfant, de participer davantage à son développement, dit-il. Même constat pour Diego Alejandro Ellanos. Ces semaines additionnelles ont facilité son entrée dans son rôle de père, mais lui ont aussi permis de soutenir davantage sa conjointe dans les tâches quotidiennes. Elle a porté le bébé pendant 9 mois, a accouché, se remet physiquement et émotionnellement, tout en allaitant, ce qui est difficile pour le corps, souligne-t-il. Des pères plus présents. L'incitatif au partage a convaincu de nombreux parents de diviser plus équitablement leur congé parental. Selon les données du Conseil de gestion de l'assurance parentale, CGAP, obtenues par Le Devoir, 32 % des couples admissibles en 2023 répondaient aux critères pour obtenir ce bonus de 4 semaines. Il n'était que 8 % à y prétendre en 2020, avant son entrée en vigueur. Les chiffres sont super encourageants. L'incitatif fonctionne et contribue à redéfinir les rôles parentaux. Ça vient démontrer que la parentalité est une responsabilité partagée, affirme Camille Tassé-Tétrault, conseillère en communication au CGAP. Les données préliminaires de 2024 et 2025 montrent d'ailleurs une hausse continue de l'utilisation du congé parental par les pères, indique-t-elle. Des résultats qui étonnent Sophie Mathieu, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques familiales. Les recherches démontrent que 2 facteurs sont cruciaux pour encourager l'égalité des genres dans la prise de congé à la naissance, dit-elle. Il faut que ce soit payant, donc un taux de remplacement du salaire à plus de 75 %, et il faut que le congé soit non transférable. L'incitatif au partage, c'est l'inverse, mais ça marche, souligne-t-elle avec étonnement, y voyant un réel désir d'implication des pères québécois. Des progrès, mais un partage encore inégal. Malgré cette progression, la présence des pères demeure brève aux côtés des nouveau-nés. Ceux qui prennent des prestations utilisent en moyenne 10,3 semaines, une hausse modeste par rapport à une moyenne de 8,5 à 9 semaines observées entre 2006 et 2020. Les données du CGAP montrent qu'à l'inverse, les mères prennent en moyenne 45 semaines et ce, depuis 2006. C'est un peu le drame du RQAP. On a créé une norme où les hommes prennent leur congé de paternité et on a célébré ça. Mais dans les faits, ça reste hautement inégalitaire, constate Sophie Mathieu. Selon elle, le congé parental continue d'être perçu comme une extension du congé de maternité, ce qui pose problème. Les jeunes pères n'osent pas prendre congé au-delà des 5 semaines de paternité, car ils ont l'impression de voler du temps qui devrait revenir à la mère. Cette perception persiste dans les discussions familiales, amicales ou professionnelles et freine leur implication. Les employeurs ne s'attendent pas à ce que les pères prennent plusieurs mois de congé. Au-delà du congé de paternité, ça peut être mal vu. Alors, certains se retiennent, note la professeure. Sans parler de l'écart salarial toujours important entre les hommes et les femmes. En 2023, le revenu hebdomadaire moyen des pères était 24 % plus élevé que celui des mères, selon le CGAP. Puisque la majorité des prestations parentales remplace 55 % du revenu, certains hésitent à prolonger leur absence, craignant une baisse trop importante du revenu du couple. Pour diminuer ces inégalités, il faut encore plus encourager les pères à prendre congé. L'incitatif au partage n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne va pas assez loin. Il faut donner plus de congés exclusifs aux pères, comme on l'a fait en créant le RQAP en 2006. Les effets seront bien plus grands et bénéfiques pour tous. Et si les pères avaient davantage de congés pour s'occuper de leur nouveau-né? Et si on accordait aux pères un congé de paternité égal à celui des mères? L'idée séduit plusieurs chercheurs et de plus en plus de parents qui y voient un levier essentiel pour transformer les normes familiales et réduire les inégalités. Or, malgré les surplus du régime québécois d'assurance parentale, RQAP, Québec a préféré réduire les cotisations des travailleurs en 2025 plutôt que de bonifier ses prestations. Une occasion manquée, déplorent plusieurs. Si on veut que les hommes s'impliquent, il faut leur donner un plus long congé de paternité. C'est comme ça qu'on change les comportements. Est-ce qu'il devrait être égal au congé de maternité? Oui, c'est l'idéal à viser, lance sans embâge Sophie Mathieu, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques familiales. Raymond Villeneuve, du Regroupement pour la valorisation de la paternité, partage son opinion. À l'instauration du RQAP en 2006, beaucoup de gens pensaient que 5 semaines de congé pour les pères, ça ne marcherait pas. Ce serait trop, se souvient-il. Mais rapidement, ça s'est imposé comme la norme sociale. 20 ans plus tard, c'est le temps d'en faire plus. En 2005, avant l'entrée en vigueur du RQAP, seulement 28 % des pères québécois avaient recours au régime fédéral d'assurance-emploi pour toucher des prestations de paternité. L'introduction du congé de paternité a fait bondir leur participation à 56 % en 2006. Elle atteint désormais 73 % selon les plus récentes données, celles de 2023. Vous écoutez « Congés parentaux », un dossier d'Annabelle Caillou et Clémence Pavic paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir. Une volonté d'en faire plus. Aujourd'hui, les pères ont la volonté de s'impliquer davantage. Plusieurs d'entre eux, rencontrés par Le Devoir, confirment le changement de mentalité qui s'opère depuis plusieurs années. Contrairement aux membres des générations précédentes, ils se voient moins dans un simple rôle de pourvoyeur et veulent passer du temps en famille lors de l'arrivée d'un nouveau-né. Anthony Mignot, par exemple, a pris l'entièreté du congé parental lorsqu'il est devenu père pour la 2e fois l'an dernier. En étant plus présent, on développe un lien particulier avec son enfant. On participe davantage à son développement. Il y a aussi un meilleur partage des tâches dans le couple et une meilleure cohésion, constate-t-il. Il note par ailleurs que le fait de rester seul avec sa fille a permis d'enlever une charge des épaules de sa conjointe et de lui libérer du temps pour elle et son travail. Je suis devenue la personne ressource par défaut pour ma fille. C'est vers moi qu'elle se tournait. Quand le partage des congés est plus égalitaire entre les parents, les bénéfices se font sentir à long terme, souligne Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités. La prise du congé paternel a un effet positif sur le partage des tâches domestiques et cet effet perdure, même plusieurs années après que le congé a été pris, indique-t-il en se basant sur une récente étude danoise. Sophie Mathieu abonde dans ce sens. C'est bon pour le développement des enfants, c'est bon pour développer les compétences parentales des pères. C'est aussi bon pour les femmes qui seront moins à risque de discrimination à l'embauche et pourront plus vite retourner au travail. Et c'est bon pour le couple. En recherche, c'est rare qu'on ait des consensus très forts, mais sur l'effet du congé de paternité, il n'y a pas de débat. Une occasion manquée. Pourtant, à l'été 2025, le gouvernement caquiste a annoncé qu'il baisserait de 8% les cotisations au régime en 2026, avant de finalement annoncer à l'automne que la diminution serait plutôt de 13%. La raison? Les coffres du régime, financés à même les cotisations des travailleurs et des employeurs, enregistrent des surplus depuis plusieurs années, alors que le nombre de naissances diminue. Ça a été une occasion manquée à 100%, déplore Mme Mathieu, et tout ça pour sauver une coupe de piastres par personne. J'ai de la misère à comprendre. M. Villeneuve partage cette déception. Avec une fraction des économies réalisées par les baisses de cotisations, on pourrait faire des choses extraordinaires pour le congé de paternité et pour le deuil périnatal. Selon le gouvernement, la récente baisse des cotisations dégagera une économie d'environ 390 millions de dollars pour les travailleurs et les employeurs cette année. M. Boucher calcule que cette marge de manœuvre aurait largement permis de doubler le congé de paternité pour le faire passer de 5 à 10 semaines. Il estime qu'une telle mesure aurait coûté environ 200 millions de dollars en 2026. Et cette mesure se ferait à coût nul pour l'État, rappelle M. Villeneuve. Ça ne coûte rien aux finances publiques. Le RQAP est un régime autosuffisant, rappelle-t-il. On se targue de dire que le Québec est l'endroit où les congés parentaux sont les plus avancés en Amérique du Nord. Mais c'est facile de dire qu'on est les meilleurs quand on se compare au pire, les États-Unis. On pourrait faire tellement mieux, souligne Sophie Mathieu. Un anniversaire amer pour le RQAP, dont le Conseil est aboli par Québec. Quoi retenir? Le régime québécois d'assurance parentale, RQAP, fête ses 20 ans, mais l'abolition du Conseil de gestion crée des craintes de stagnation. Le Conseil de gestion, qui conseille sur les améliorations du RQAP, disparaît dans une restructuration gouvernementale. L'économie de 1,7 million de dollars est vue comme négligeable par Sophie Mathieu, professeure à l'Université de Sherbrooke. Le régime québécois d'assurance parentale, RQAP, célèbre ses 20 ans cette année. Un anniversaire toutefois terni par l'abolition imminente de son conseil de gestion, dont la mission était d'étudier les pistes d'amélioration du régime. Des intervenants du milieu qui plaident pour sa bonification craignent qu'il fasse du surplace. C'est la pire décision des 30 dernières années concernant le soutien aux familles, dit d'emblée Sophie Mathieu, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques familiales. Québec a annoncé en novembre dernier un vaste traitement choc visant à réduire la bureaucratie et à réaliser des économies, notamment par la fusion ou l'abolition de plusieurs organismes gouvernementaux. Parmi les entités touchées figure le Conseil de gestion de l'assurance parentale, CGAP, dont la disparition transférera la gestion du régime québécois d'assurance parentale, RQAP, à Retraite Québec. Le CGAP joue le rôle de fiduciaire du RQAP depuis sa création en 2006. Formé par des représentants du milieu des travailleurs et des employeurs, Il a notamment pour mission de suivre l'évolution du marché du travail et des besoins des familles afin de recommander au gouvernement des améliorations au régime. Au fil des années, le CGAP a piloté plusieurs avancées majeures. Parmi les plus récentes, la possibilité d'avoir un revenu d'emploi partiel sans perdre ses prestations, le bonus de 4 semaines pour les couples qui partagent plus équitablement le congé parental, ou encore l'augmentation des semaines de congé pour les parents de jumeaux. Une perte d'expertise? C'est un joyau en Amérique du Nord. On est les seuls à avoir ça, souligne Raymond Villeneuve, le directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, qui s'est rendu en commission parlementaire pour l'étude du projet de loi 7, s'explique mal la disparition du CGAP. C'est une organisation qui est très compétente, très pertinente, très utile socialement, ajoute-t-il. Les experts interrogés par Le Devoir s'inquiètent surtout de la perte d'expertise qu'entraînera la disparition du CGAP. Cette petite société d'État-là a fait progresser le Québec parce qu'elle est connectée sur tous les cercles internationaux. Elle voit ce qu'il se fait de mieux ailleurs pour recommander au gouvernement des modifications du RQAP, note Sophie Mathieu. Elle craint un recul du soutien aux familles à l'avenir, estimant que Retraite Québec n'a pas l'expertise nécessaire pour remplacer le Conseil dans cette mission d'écoute et d'innovation. Moins catégorique, Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités, croit que le gouvernement pourra toujours améliorer le régime. Il regrette toutefois lui aussi qu'avec la disparition du Conseil, on perde cet arrimage fort avec le milieu de la recherche puis de la société. Un élément essentiel, selon lui, pour développer les politiques publiques. De son côté, le ministère de l'Emploi affirme que l'abolition du Conseil ne ferme pas du tout la porte à d'éventuelles améliorations au régime. Dans un courriel au Devoir, il soutient que Retraite Québec pourra compter sur l'expertise des employés du CGAP qui seront intégrés à ses équipes. Reste qu'il n'y aura plus de conseil d'administration indépendant pour jouer le chien de garde et s'assurer spécifiquement de la bonne gestion du fonds, réplique Mme Mathieu. De la poudre aux yeux. Le ministère de l'Emploi défend sa décision en soulignant que l'abolition du Conseil permettrait d'économiser environ 1,7 million de dollars par année et que cette somme serait réinvestie dans le fonds d'assurance parentale. C'est une goutte d'eau, déplore Sophie Mathieu. Selon la professeure, cette économie n'en est pas une pour les finances de l'État, puisque le régime est financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs. C'est de la poudre aux yeux. On abolit une structure qui permet de l'innovation pour faire une économie qui n'existe pas. C'est très difficile à comprendre, conclut-elle. C'était Congés parentaux, un dossier d'Annabelle Caillou et Clémence Pavic, paru le 16 mars 2026 dans Le Devoir.
Incursion dans l'univers des rêves. Un texte commandité paru le 13 mars 2026 dans la presse. Quand le corps s'abandonne au sommeil, l'esprit, lui, s'ouvre sur un théâtre invisible où tout devient possible. Entre les cauchemars terrifiants, les scénarios farfelus et les rêves empreints de douceur, la pensée onirique nous démontre à quel point le cerveau est l'un des moteurs créatifs les plus puissants qui soient. Les rêves les plus mémorables surviennent pendant le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, qui survient plusieurs fois par nuit et s'allonge à mesure que vous vous approchez du réveil, constitue un terrain particulièrement fertile aux rêves. C'est pendant cette phase que surgissent les scénarios les plus absurdes et les plus détaillés. Autrement dit, ceux dont vous vous souvenez le plus souvent. Cela dit, il est possible de rêver à d'autres moments de la nuit. Le saviez-vous? Pendant le sommeil paradoxal, les yeux effectuent des mouvements rapides derrière les paupières, comme s'ils suivaient les images d'un film. Les rêves qui surviennent en fin de nuit sont souvent nourris par des souvenirs lointains. C'est ce qu'a démontré une étude menée à l'Université de Montréal. À l'inverse, les rêves en début de nuit seraient davantage liés à des événements récents inscrits dans la mémoire depuis moins d'une semaine. On rêve plusieurs fois par nuit. Ceux qui pensent ne jamais rêver font fausse route. Tout le monde rêve, et même plusieurs fois par nuit. Cette impression de ne pas rêver s'explique notamment par le fait que le cerveau n'active pas pleinement les régions liées à la mémoire du REM pendant le sommeil. Le saviez-vous? Des chercheurs ont établi que la personne moyenne connaît de 4 à 6 périodes de rêve chaque nuit. Lorsqu'on rêve, le corps demeure paralysé. Si le cerveau reste très actif pendant le sommeil paradoxal, le corps entre quant à lui dans un état de relâchement musculaire profond, ce qui l'empêche de bouger. Il s'agit essentiellement d'un mécanisme naturel de protection qui prévient toute mise en action des rêves. Il est possible d'atteindre l'orgasme en rêvant. Faire l'amour avec une célébrité, passer un moment coquin avec un collègue, renouer avec un ex-partenaire, environ 8% de nos rêves seraient de nature érotique, selon une étude de l'Université de Montréal. Parmi ceux-ci, une petite fraction mènerait même à l'orgasme. Les animaux rêvent aussi. Les rêves ne sont pas le propre des humains. Des recherches ont démontré que de nombreux animaux connaissent une phase de sommeil semblable au sommeil paradoxal des humains et suggèrent que les chats, les chiens, les chevaux et même les rats rêvent. Toutefois, ce à quoi rêvent les animaux demeure un mystère absolu. Les enfants sont plus enclins à faire des cauchemars que les adultes. Cela s'explique par le fait que leur cerveau, en plein développement, traite intensément les émotions et les expériences nouvelles, ce qui peut favoriser l'apparition de rêves angoissants. Fut une époque où les gens ne rêvaient pas en couleur. Dans les années 1940 et 1950, une proportion élevée de personnes rapportait rêver en noir et blanc. L'hypothèse la plus plausible pour expliquer ce phénomène est celle de l'influence culturelle et médiatique. À cette époque, l'environnement visuel était largement dominé par le cinéma et la télévision en noir et blanc. C'était « Incursion dans l'univers des rêves », un texte commandité paru le 13 mars 2026 dans la presse.